Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, alors que les humanitaires s'activent dans le nord-est de la Syrie, le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme parle de possibles crimes de guerre d'une milice pro-turque. Dernier jour de la MINUJUST, la mission de paix de l'ONU en Haïti. Nous reviendrons sur une rencontre des médias africains sur les enjeux du changement climatique et un dossier coup de projecteur sur la situation des enfants avec l'UNICEF. Alors que les opérations militaires turques se poursuivent dans le nord-est de la Syrie, le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a affirmé ce mardi que la Turquie pourrait être considérée responsable des exactions commises en Syrie par les groupes armés qui lui sont affiliés. Le commissariat de l'ONU a obtenu des images de combattants pro-turcs se filmant en train de capturer et d'exécuter 3 prisonniers kurdes. Le commissariat exhorte les autorités turques à ouvrir immédiatement une enquête indépendante et à appréhender les responsables. Entre-temps, les humanitaires s'activent pour venir en aide à la population civile, à l'instar du Programme alimentaire mondial. On écoute Hervé Verroussel, porte-parole du PAM.
Malheureusement, de plus en plus de personnes quittent leur maison, quittent leur village et quittent leur ville pour chercher de la sécurité plus à l'intérieur du pays. Les chiffres augmentent chaque jour de 100 000 à 130 000, de 130 000 à 160 000. Donc vraiment augmente jour après jour le nombre de déplacés qui cherchent la sécurité. Les différentes agences de l'ONU sont très actives. Le Programme alimentaire mondial a déjà envoyé de la nourriture urgente à 130 000 personnes. Plus de 83 000 d'entre elles ont déjà reçu cette nourriture. Le reste est en cours de livraison. Mais nous voulons insister auprès de toutes les parties, et j'insiste toutes les parties, sur l'importance de laisser un accès total et sécurisé à l'ensemble des humanitaires dans la région pour que nous puissions venir en aide à ces personnes qui en ont besoin.
Ce 15 octobre marque le dernier jour de 15 ans de présence du maintien de la paix en Haïti. La MINUJUST, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, cède la place mercredi au BINU, le bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Cette mission politique spéciale de l'ONU sera dirigée par l'américaine Hélène Lalim et dispose d'un mandat initial d'un an. Le BINU sera chargé notamment de conseiller le gouvernement haïtien sur les moyens de promouvoir et de renforcer la stabilité et la bonne gouvernance, y compris l'état de droit. Au Conseil de sécurité, le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est revenu sur cette transition et les acquis fragiles à préserver.
Il y a 15 ans, la MINUSTA se déployait en Haïti pour soutenir la stabilité du pays. Aujourd'hui, en ce dernier jour du mandat de la MINUJUST, et avec les Haïtiens eux-mêmes, nous refermons la page du maintien de la paix en Haïti, mais nous ne refermons pas la page du soutien des Nations Unies à Haïti. Ce chapitre qui s'achève a été caractérisé par des succès communs avec le peuple d'Haïti, par la tragédie du tremblement de terre et par les leçons de ce que nous aurions dû mieux faire. En ce jour, nous devons réfléchir ensemble à tous ces aspects qui forment le socle à partir duquel nous pourrons entrer dans la prochaine étape du partenariat de Haïti avec les Nations Unies. Les progrès accomplis en Haïti au cours des 15 dernières années ne sont pas minces, mais les acquis de la stabilité sont encore fragiles et doivent encore davantage s'enraciner dans la démocratie et le développement. Le début des opérations du BINU, demain, va marquer un renouveau de l'engagement des Nations Unies en faveur de la stabilité et de la prospérité d'Haïti. Je souhaite à cette occasion encourager le peuple haïtien à continuer de travailler étroitement avec les Nations Unies afin de préserver et renforcer les progrès accomplis et réaliser leur aspiration pour l'avenir.
Pour contribuer à la sensibilisation du plus grand nombre sur les questions posées par le réchauffement climatique, l'association Africa 21 organise avec l'ONU cette semaine à Genève ses premières journées des médias et du journalisme en Afrique avec une quinzaine de journalistes africains. Ils doivent notamment aborder les enjeux du changement climatique pour le développement de l'Afrique, les changements du vivant et du paysage en Afrique et comment en faire une priorité pour les médias africains. Une question d'autant plus pertinente à l'ère des fake news. Explication de Pierre Sob, président d'Africa 21.
Les journalistes sélectionnés sont déjà familiers du sujet. Ils ne viennent pas apprendre ce que c'est. Ils viennent partager leurs connaissances de la question de la crise climatique en Afrique avec les savants et confronter leurs propres connaissances à celles de ces savants, climatologues, experts, universitaires, des organisations internationales qui ont des compétences en matière climatique, notamment l'Organisation météorologique mondiale, qui joue un rôle central dans le cadre de nos débats. Donc, qu'est-ce que nous attendons à la fin? Nous souhaitons que ces experts partent d'ici mieux imprégnés imprégner de la manière la plus objective possible de traiter de la question du changement climatique. Parce qu'à l'époque du fake news, comme on dit, il vaut mieux que les gens sachent à quelle source ils s'approvisionnent. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé que Genève, c'était l'endroit le plus approprié pour que ces journalistes africains viennent se ressourcer en quelque sorte.
Un enfant de moins de 5 ans sur 3 souffre de malnutrition et deux enfants de moins de 2 ans sur 3 s'alimentent mal. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Selon son rapport « La situation des enfants dans le monde 2019, enfants, nourriture et nutrition », un nombre bien trop élevé d'enfants subissent les conséquences d'une mauvaise alimentation et d'un système alimentaire qui ne tient pas compte de leurs besoins. Pour en savoir plus, Florence Westergaard, adjointe France Bégin, conseillère principale en nutrition à l'UNICEF à New York.
Ce rapport fait un état assez alarmant de la situation nutritionnelle des enfants dans le monde. On a un problème avec nos systèmes alimentaires. Nos systèmes alimentaires sont défectueux. Il n'est pas normal, en fait, qu'on retrouve des marchés inondés d'aliments malsains ou mauvais pour la santé et que ces aliments, souvent, coûtent moins cher que les aliments qui sont bons pour la santé. Donc, évidemment, le facteur économique joue un rôle parce qu'une famille à revenus plus faibles va avoir plus de difficultés à se nourrir plus sainement. On a aussi un problème de mauvaise informations souvent pour ces familles, ces enfants, ces adolescents qui ne peuvent pas faire toujours des choix éclairés parce que la façon dont on fait la promotion des aliments malsains, ça peut parfois porter à confusion. On utilise des emballages, des empaquetages qui sont très alléchants. On fait souvent des rabais, un 2 pour 1 pour certains aliments qui sont malsains. Donc, toutes sortes de choses pour attirer le consommateur vers l'achat d'aliments qui sont moins bons pour la santé. L'urbanisation va jouer un rôle également aussi dans les pays donc émergents où on a une importante migration urbaine. On va faire plus souvent affaire aussi à la restauration rapide. On a une abondance plus importante d'aliments moins bons pour la santé. Évidemment, il faut aussi tenir compte qu'il y a les changements climatiques qui vont affecter le genre d'aliments qui sont disponibles. Ça va affecter également le coût de ces aliments. Sans parler de crise humanitaire, mais ça qui vont vraiment plutôt affecter le nombre d'enfants qui souffrent de dénutrition et de carence en vitamines et minéraux.
Et justement, quelles sont les conséquences sur ces enfants?
Donc, à court terme, un enfant peut être plus à risque de maladies, d'infections. Et si on parle dénutrition sévère, donc ça peut aussi causer le décès. Mais en termes d'impact sur son développement cognitif, ça va affecter la façon dont cet enfant va se développer, va apprendre à l'école. Et ça impacte évidemment aussi sur sa productivité à long terme. Mais un enfant qui souffre de surpoids a aussi plus de risques de santé à long terme. Ça peut lui causer des risques d'obésité, des risques de diabète, des troubles cardiovasculaires. Et évidemment, on sait comment ça peut aussi affecter l'estime de soi. Un enfant qui a un problème de surpoids, donc qui grandit à l'adolescence avec un problème de surpoids, c'est très difficile pour l'estime de soi. Donc, ça peut aussi causer des problèmes de développement dans ce sens.
Le rapport revient beaucoup sur les mauvais aliments et aussi que souvent, ces mauvais aliments sont donnés aux enfants très jeunes. Donc, comment justement arriver à sensibiliser et à essayer de changer cela? Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. Je pense qu'il faut un environnement pour que la mère puisse aller son enfant dès la naissance. Donc, on donne le meilleur aliment qu'il faut à l'enfant et il n'a pas besoin de faire appel aux formules, aux préparations pour nourrissons. Donc, en termes d'impact économique, c'est assez important aussi. En termes d'aliments qui sont ensuite offerts, c'est que on a effectivement beaucoup d'aliments qui sont moins bons pour la santé, mais qui sont très pratiques à donner à l'enfant et qui peuvent contribuer à l'obésité. Donc, c'est important de faire une bonne éducation en ce sens, mais aussi d'encourager les producteurs, les fabricants de denrées alimentaires à produire des aliments qui soient plus nutritifs et qui soient aussi abordables. Donc, d'avoir une combinaison d'aliments nutritifs, d'aliments qui soient abordables et d'essayer d'encourager la consommation d'aliments qui soient plus près de nous, donc de moins dépendre de l'importation, en fait.
Et ces mauvais régimes alimentaires nuisent à la santé des enfants et ça se passe partout dans le monde, n'est-ce pas?
Oui, donc c'est ça qui est assez inquiétant, c'est qu'auparavant, on associait la consommation d'aliments malsains qui pourraient causer de l'embonpoint et l'obésité, surtout dans les pays à revenus élevés. Mais maintenant, on voit que même les pays qui sont à revenus faibles et à revenus intermédiaires ont ces problèmes-là. Donc, chez les enfants de moins de 5 ans, on a des pays en Afrique subsaharienne, comme en Afrique du Sud, où on a une prévalence de surpoids entre 10 et 15 % chez ces jeunes enfants. Et on veut donc sonner l'alarme pour que les pays qui sont émergents, les pays à faible revenu, portent attention parce qu'on ne veut pas avoir le même problème d'avoir un pourcentage d'enfants souffrant de...
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page Internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.